Et mes parents, eux, alors, sont complètement. Je crois qu'ils 10 ans après, ils ne se rendent encore pas compte vraiment de ce qui m'arrive. Ils ont toujours l'impression que ça va s'arrêter demain, que ça tiendra pas. Enfin,
ils n'y croient pas.
Si, mais en même temps, enfin, ils espèrent que ça va durer, mais en même temps, presque ils en doutent, si vous voulez. Ils sont toujours très inquiets, en fait. Voilà. Pour eux, je suis resté toujours un petit garçon qui est parti à 17 ans en disant « Moi, je quitte le lycée, la terminale, et puis je vais faire du spectacle. » Ils croyaient que c'était
lubie.
Une passade. Et puis, en réalité, bon, ben, ça a duré un peu plus qu'ils ne le croyaient.
Mais vous êtes proche de vos parents ?
Proche, bah, comme tous les enfants sont proches de leurs parents.
Non, mais vous repartez pour la Bretagne de temps en temps ?
Il m'arrive de temps en temps, mais
rarement.
Je vous avoue que, par exemple, cette année, j'ai eu 150 représentations en province, bon, et 80 représentations à Paris. Ça fait déjà 230 jours passés en scène, plus la télévision, la radio, toutes les semaines, mon émission sur France Inter. Je dois dire que j'ai beaucoup de travail.
Et qui est très écouté. Hein.
Ben, j'ai cette chance, j'ai cette chance.
C'est le bonheur de faire de la radio.
Je vais en faire une nouvelle, d'ailleurs, bientôt, à partir du 1er décembre, de midi à 1h moins le quart. Et j'aime bien la radio parce que, ayant fait beaucoup de télévision, j'avais fait également un petit peu de radio. J'ai demandé à la direction de France Inter de retrouver ce contact avec les gens. La radio, on peut d'abord tout dire. C'est quand même le seul endroit où on puisse tout dire. Dans la presse écrite, on ne peut pas aller aussi loin qu'à la radio, à la télévision non plus. Et je dois dire que bizarrement, puisqu'on est à France Inter, disons-le, les gens pourraient avoir tendance à croire que comme France Inter n'est pas une radio commerciale et que c'est une radio donc d'État, elle serait moins irrévérencieuse que les autres, elle serait plus surveillée que les autres, etc. Et je crois, pour avoir fait l'expérience des autres, que c'est précisément le contraire.
Ici, souffle la liberté.
Et à la limite, on pourrait croire que les animateurs veulent tellement pas passer pour des suppôts du pouvoir que presque, à la limite, ils tireraient dessus encore plus fort.
Non, mais je dois dire, parce qu'on n'a jamais l'occasion de le dire, que ici, on peut inviter ceux vraiment que l'on a envie de recevoir. Jamais, je le dis puisque vous êtes avancé sur ces chemins, jamais on ne m'a dit pas celui-là. Et je crois, à cette heure-ci et dans cette émission, que vraiment toutes les idées ont été avancées.
Oui, vraisemblablement.
Alors, on parlait de la Bretagne tout à l'heure, Thierry Lurand. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas la nécessité de vous ressourcer. Enfin, moi, je ne comprends pas. Vous êtes de Perros-Guirec, je crois.
Je suis né à Paris, mais j'ai vécu
toutes mes... Ah, vous êtes né à Paris.
Toutes mes vacances pendant toute l'enfance.
Vous n'êtes pas breton, alors.
Écoutez, vous savez, quand on a du sang breton dans les veines, on est breton. Mon père est breton
et
parle
exact,
breton.
Exact. Oui, mais quand même...
En plus, je vais vous dire, je défends la Bretagne, je dois faire... Le bal des Bretons à New York, au Carnegie Hall l'année prochaine, normalement. J'ai fait un gala là, pour le bateau de sauvetage de l'île de Sein, au profit du bateau de sauvetage qui a coulé et qu'on doit en payer un autre. Enfin, je fais partie de l'association des 4 Bretons, qui est une association qui œuvre beaucoup pour la Bretagne. Donc, je me sens breton.
Vous vous rappelez votre première imitation ?
Ma première imitation, ça a dû être vraisemblablement Aznavour, je crois.
C'était comment, ça ? Vous l'aviez travaillé de quelle manière ?
Vous savez, j'avais écrit dans mon petit bouquin, je suis né à l'époque des transistors, ça tombait pile. Et c'est vrai que quand on rentrait du cours, on écoutait la radio, on n'avait pas la télévision, et on allait voir la télévision chez ma tante le dimanche seulement. Et je passais donc mon temps à écouter la radio, j'étais fasciné par ça. Et j'entendais donc les vedettes de l'époque, bon, quand j'avais 5, 6, 7 ans. Et il y avait Aznavour déjà, bien sûr. Il y a eu aussi Dalida, il y avait le général de Gaulle, qui était une des grandes vedettes de la radio à l'époque aussi. Et Dalida, Aznavour et le général de Gaulle ont été mes premières imitations. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer ensuite Charles Aznavour, de devenir un de ses amis. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration et maintenant en plus beaucoup d'amitié pour lui.
Mais comment vous avez essayé sa voix ? Puisque tout a commencé avec Aznavour, moi j'aimerais savoir comment les choses sont passées. Parce qu'on essaie de poser la voix et ensuite on écoute.
Mais je ne sais pas, je vais vous dire que sur le plan sonore, si vous voulez, pour moi est presque un plan photographique un petit peu. Je ne sais pas d'où ça vient. Très franchement, j'espère que ça n'a rien de maléfique, mais...
Mais vous pouvez chanter Aznavour, vous pouvez le parler aussi.
Oui, bien sûr, oui.
Ça donne quoi, lorsqu'on...
Bien, écoutez, mon cher Jacques Chancel, évidemment, c'est très important pour moi, bien sûr, de pouvoir chanter toujours. sans arrêt dans le monde entier et représenter ainsi un peu la France.
Et vous écoutez ensuite pour voir ce que cela donne, vous travaillez la voix, non ?
Pratiquement pas.
Parce que vous prenez toutes les voix, enfin dans le spectacle que vous présentez à Marie en ce moment, il y a je ne sais plus combien, 70 imitations, plus peut-être.
Il y a un pot pourri avec une trentaine de voix et puis il y a environ 43 personnages sur lesquels je m'attarde 1 minute 30 ou 2 minutes. Oui.
Alors c'est vrai, on peut imiter différents personnages, mais ce qui doit être difficile, enfin à mon avis, et je suis spectateur, là c'est de passer d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire, moi j'aurais peur d'accrocher, j'ai envie de faire Edgar Faure, je me trompe, je fais Chaman
non,
des Masses.
Non, je ne crois pas, parce que moi je fais ça comme je parle, si vous voulez. Ouais.
C'est facile.
Oui. Oui, oui, je ne rencontre pas de difficultés. Quand je rencontre des difficultés, j'abandonne, parce qu'à ce moment-là, ça ne devient pas naturel. Et si ce n'est pas naturel, c'est déjà une contrariété pour moi. Comme je ne suis pas quelqu'un de laborieux, je ne vais pas m'attarder sur quelque chose qui me minerait et qui me bloquerait.
Mais quand même, lorsqu'on revient un peu en arrière, 10 ans, ça n'est pas tellement, vous avez 27 ans, et on s'aperçoit que vous avez une carrière totale, que d'autres seraient heureux de revendiquer. Alors c'est beaucoup, 10 ans.
C'est beaucoup et c'est peu. Pour moi, c'était seulement de la formation professionnelle. J'ai le sentiment, si vous voulez, mon nouveau spectacle qui se terminera le 31 décembre, ce sera pour moi là, une nouvelle année. Et à tout point de vue, je crois que ce sera également peut-être une nouvelle carrière aussi.
Alors justement, 10 ans déjà, un chemin parcouru et puis tout recommence. En fait, dans ce métier, il faut que tout puisse recommencer.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que lors d'un projet qui nous tient à cœur et que ce projet est réalisé, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à grimper une marche au-dessus et qu'on ne saura pas quoi faire après. Et puis finalement, en tout cas, dans mon cas, j'arrive presque à me surprendre tous les ans de trouver des nouvelles idées, des nouvelles imitations et d'essayer à chaque fois de compliquer le spectacle pour le rendre plus beau, plus éblouissant et de déjà arriver à m'épater.
Mais oui, mais justement, j'ai l'impression que rien ne vous étonne, que tout vous était donné plutôt.
Mais non, tout ne m'a pas été donné, pas du tout, parce que disons qu'à 17 ans, j'avais beaucoup d'inconscience. J'ai débarqué dans ce métier, je ne savais pas du tout comment c'était fait, qui le faisait et comment. Et j'ai tout découvert au fur et à mesure. Il y a une période de ma carrière qui avait été dirigée par un impresario pendant quelques années. Et celui-ci m'a souvent masqué les réalités et masqué les véritables choses, les succès comme les échecs d'ailleurs.
Il a bien fait peut-être.
Il a dans certains cas bien fait, dans d'autres cas mal fait, parce que quand moi j'ai ouvert les yeux et les oreilles, je me suis aperçu quand même, j'étais passé à côté d'un certain nombre de choses, qu'on avait mis un paravent entre moi et certaines personnes, et entre certaines choses, et disons que j'ai voulu après m'occuper moi-même de moi, je me suis entouré pour ça de gens très honnêtes et... très compétent, et en même temps, je me suis occupé directement des choses. Ça m'a permis de côtoyer les gens de ce métier, d'apprendre à mieux les connaître, à mieux les apprécier, et ça m'a permis de faire une révolution sur moi-même. Vous me direz, vu ma taille, c'était pas bien long.
Quelle est votre taille ?
1m65.
Vous regrettez de temps en temps ?
Non, parce que je ne me rends pas compte que je suis petit.
10 centimètres de plus, quand même.
Ah, ils seraient les bienvenus. Mais bizarrement, je ne me rends pas compte que je suis petit.
J'ai l'impression que aujourd'hui, Thierry de Luron, vous êtes un peu plus frileux, un peu plus courtois. Vous devenez plus pamphlétaire, c'est-à-dire vous êtes passé de l'autre côté. Lorsqu'on est assis dans les imitations, on est facilement méchant. Lorsqu'on est pamphlétaire, on a passé le cap, c'est-à-dire qu'on peut tout dire.
Je crois qu'il faut dépasser la méchanceté d'abord. Moi, j'en veux à personne. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'aigri. Je n'aurais d'ailleurs aucune raison de l'être.
On ne peut pas non plus aimer tout le monde.
Non, bien sûr. Mais enfin, ça ne va pas jusqu'à la haine, quand même. Hein.
Vous n'avez jamais haï personne.
Si, il n'y a qu'une personne que je hais. C'est donc cet impresario qui s'est occupé de moi pendant quelques années. Mais pour des raisons que par... dernière amitié pour lui,
il faut quand même être respectueux du passé. À un certain moment, il a dû faire des choses qui vous ont lancé, et il a été beaucoup dans votre carrière.
Bien sûr.
Tant comme tout ça.
Mais disons que quand un docteur vous sauve la vie, vous lui réglez ses honoraires, il vous a quand même sauvé la vie. Alors disons que les honoraires, là, étaient quand même nettement trop élevés par rapport au service rendu.
Alors, il y a également ce nom, certains peuvent penser que vous l'êtes donné. Ça n'est pas du tout
non,
vrai.
Non, non,
Thierry Luron, c'est vraiment... C'est quand même encore une chance. Vous avez été accompagné par les fées dès le berceau.
Mais je ne sais pas. Enfin,
le Luron, enfin,
je crois pas
je me rappelle le Luron du dimanche à la télévision.
Oui.
Ce nom permet de tout faire.
Absolument, mais beaucoup de gens croient encore, d'ailleurs, qu'il ne s'agit pas de mon vrai nom, c'est pourtant le bon. On m'avait dit à mes débuts, oh là là, c'est un très mauvais nom, il faut le changer. Et je ne comprenais pas, d'ailleurs, qu'on puisse passer en public et être connu des gens sous une autre identité que la sienne.